Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant que de vous donner le sermon pour cette fête de l'Épiphanie, je voudrais vous signaler que sur le site d'Âme Marie, quand vous ouvrez le site, sur la page d'accueil du site, vous avez un lien en bas de la page d'accueil qui vous donne accès maintenant à toute une série de petits fichiers vidéo et audio. Et vous avez actuellement déjà les 66 lettres de doctrine que vous trouvez également sur le site. Donc vous pouvez les avoir maintenant sur YouTube avec un accès direct à partir du site si vous le désirez. Ou alors vous allez directement sur YouTube. Je tiens à remercier la personne qui a passé beaucoup beaucoup de temps à mettre tout ça sur YouTube pour permettre à davantage de personnes d'avoir accès à ces moyens de travailler, d'étudier pour mieux connaître notre foi catholique. Eh bien, chers frères, je voudrais vous parler un petit peu de cette très belle fête de l'Épiphanie. Vous savez que dans les temps anciens, cette fête de l'Épiphanie était une des plus importantes de l'année, qui était pratiquement au même niveau que la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte, enfin la fête de l'Épiphanie. La fête de l'Épiphanie, c'est la fête de la manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a toujours été Dieu, il est toujours Dieu, il sera toujours Dieu, mais il manifeste sa divinité. On voit très bien, par exemple, chez les apôtres, que notre Seigneur Jésus-Christ va manifester petit à petit sa divinité aux apôtres. Par exemple, au mont Tabor, lors de la transfiguration, il va manifester cette divinité au moins en partie. Eh bien, c'est le message que l'Église nous donne derrière la fête de l'Épiphanie. On le voit très bien à partir de l'oraison du jour de la fête de l'Épiphanie. Voilà cette oraison. En ce jour où, par le cours d'une étoile, vous avez conduit les peuples païens à la connaissance de votre Fils unique, nous vous demandons, Seigneur, qu'après nous avoir donné déjà de vous connaître par la foi, vous nous conduisiez jusqu'à la contemplation face à face de votre sublime majesté, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Donc cette fête de l'Épiphanie, c'est la connaissance, la manifestation qui permet de conduire les peuples païens à la connaissance de votre Fils unique, de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Église et du chemin qui mène au ciel. On voit très bien qu'après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord le peuple juif va venir avec les bergers qui vont venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et immédiatement après, ce seront les rois mages, les trois rois mages qui représentent les païens, donc les gens qui ne sont pas juifs et qui se sont aussi appelés par notre Seigneur Jésus-Christ pour justement partir et prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est ce que vont faire les trois rois mages, Saint Melchior, Saint Gaspard, Saint Balthazar. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ nous demande en ce jour de la fête de l'Épiphanie de puiser dans notre communion d'aujourd'hui, dans la messe d'aujourd'hui, la force dont nous avons tous besoin pour conduire notre âme à la connaissance du Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi pour que nous ne nous arrêtions pas là en bon chemin et que nous allions jusqu'à la contemplation face à face de sa divine majesté. Il ne faut pas simplement conduire notre âme, mes bien chers frères, il faut aussi conduire les gens qui sont autour de nous. C'est ça la manifestation. Épiphanie, c'est ça, manifester notre foi catholique. Ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui dans le monde moderne, c'est de catholiques qui manifestent leur foi catholique. Monseigneur Lefebvre nous disait souvent qu'il ne pensait pas qu'il fallait actuellement constamment expliquer la doctrine. Il fallait d'abord et avant toute chose l'affirmer. L'affirmer. Une fois que cette affirmation de la doctrine a été faite, il faut évidemment aussi l'expliquer aux gens pour qu'ils la comprennent convenablement. Mais il faut d'abord l'affirmer. Ce dont on a le plus besoin, c'est l'affirmation de la foi catholique. C'est justement ce qui n'est plus fait du tout dans l'Église de Vatican II. Au nom du subjectivisme, on n'ose plus affirmer la foi catholique et on propose simplement un certain nombre d'opinions théologiques. Non, il faut affirmer la foi. Et l'Église nous rappelle que historiquement, cette manifestation de la foi catholique a lieu en trois différentes occasions. Bien sûr, avec l'arrivée des mages qui suivent l'étoile, mais aussi lorsque notre Seigneur Jésus-Christ à Cana a changé l'eau en vin, et également lorsque notre Seigneur a été baptisé par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain. La tradition nous dit que ces trois manifestations ont eu lieu un 6 janvier. Voilà l'oraison. C'est pas une oraison, c'est l'antienne magnificat de la fête de l'Épiphanie. Trois miracles ont marqué le saint jour que nous fêtons, l'Épiphanie. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages à la crèche. Aujourd'hui, l'eau s'est changée en vin à la table des noces. Et aujourd'hui, le Christ a voulu être baptisé par Jean dans le Jourdain afin de nous sauver. Eh bien, il faut, mes bien chers frères, nous dire que notre Seigneur Jésus-Christ veut aussi manifester sa divinité à l'intérieur de notre âme. Il veut augmenter la foi que nous avons reçue déjà par le baptême. Il ne s'agit pas simplement de conserver la foi de notre baptême. Il faut l'augmenter. C'est une vertu théologale, la foi. Et comme toutes les vertus théologales, ces vertus peuvent progresser à l'infini, au moins tant que nous sommes ici-bas sur la terre. Une fois que nous serons au ciel, il n'y aura plus besoin de foi, puisque nous verrons de nos propres yeux la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons d'une certaine façon, nous aussi, la vision béatifique, au moins à notre niveau. Mais il nous faut justement avoir prendre dans la Sainte Eucharistie d'aujourd'hui, prendre la force d'être une manifestation vivante de cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que les gens, quand ils nous voient, je vous l'ai déjà dit souvent, lorsque les gens du monde moderne, les païens du monde moderne qui nous entourent tous, malheureusement, qui sont tous là autour de nous, quand ils nous voient agir, nous comporter, quand ils nous voient nous entendre parler, quand ils voient notre façon d'élever nos enfants, notre comportement professionnel, notre comportement familial, notre façon de nous habiller, il faut qu'ils puissent voir derrière ce comportement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, pour nous prêtres, c'est un petit peu plus facile de le faire à cause du port de la soutane. Nous sommes toujours en soutane. Et cette manifestation de la soutane, justement, manifeste derrière la soutane la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis allé voir ma vieille maman, là, quelques jours après Noël, et j'ai pris quelques heures pour aller faire une promenade en montagne, au-dessus de Gap, et j'étais dans la neige, avec ma soutane, bien sûr, et j'ai rencontré un groupe de gens. Bien, ils ont vu le prêtre en soutane, ils m'ont salué, monsieur l'abbé ou mon père, et on a commencé un petit peu à discuter. Vous voyez, en pleine montagne, ils ont rencontré ce prêtre, et bien, le port de la soutane tout de suite les oblige à penser au bon Dieu et à parler du bon Dieu. Alors, posons-nous cette question, suis-je dans mon comportement un moyen de manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que les gens qui me voient pensent à notre Seigneur Jésus-Christ, sont obligés d'une certaine façon à penser à notre Seigneur Jésus-Christ, justement à cause de mon comportement? Ou est-ce qu'au contraire, ils me considèrent comme un pion sur l'échiquier comme tous les autres? N'oublions pas que les rois mages ont trouvé le chemin qui mène le chemin de la crèche par l'intermédiaire d'une étoile. Et là, on retrouve exactement le même symbole. Cette étoile représente la foi. C'est par la foi que nous trouvons notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, les trois rois mages n'avaient pas encore la foi avant de se présenter à la crèche. Ils n'étaient même pas baptisés, ils n'étaient pas encore catholiques. C'était encore des païens, mais ils cherchaient Dieu. Ils avaient un grand désir de connaître le vrai. Et notre Seigneur Jésus-Christ, le premier cadeau qu'il va leur donner, au moment où il se présente à eux, enveloppé de l'ange, dans la crèche de Bethléem, il va leur donner le don de la foi. Et ils vont rentrer chez eux avec une foi nouvelle, qui va leur permettre justement d'avoir cette force de commencer à prêcher la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'aux martyrs. Tous les trois vont donner leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je dois moi aussi suivre l'étoile manifestée par cette foi qui doit être en moi, inscrite en moi par le baptême, Posons-nous aussi cette même question, on retrouve toujours le même symbole. Est-ce que je suis une étoile pour ceux qui sont autour de moi? L'étoile, par définition, elle n'est visible que pendant la nuit. On ne voit pas les étoiles dans la journée. Mais la nuit, on les voit. Pourquoi? Parce qu'il y a la réflexion du soleil sur ces étoiles. Et donc, je dois être une étoile dans la nuit du monde. La nuit représente le monde moderne qui a perdu notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ont perdu la source de lumière. Et comme les rois mages, ils ont vu une étoile nouvelle. Ils suivent l'étoile parce qu'ils savent que cette étoile va les conduire au grand roi. Est-ce que je suis une étoile pour les gens qui sont autour de moi? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai perdu toute ma luminosité parce que je suis comme tout le monde? Il faut que les gens qui nous voient encore une fois dans la nuit du monde moderne puissent voir cette lumière de la foi en nous et savoir, il faut que je suive cette lumière qui se présente devant moi et conduise, suivant la lumière de la foi manifestée par mon comportement, je vais pouvoir conduire ces gens à notre Seigneur Jésus-Christ. La foi catholique mène toujours à notre Seigneur Jésus-Christ, ne mène jamais à une fausse religion. Une fausse étoile mène à un faux Dieu. La véritable étoile mène au véritable Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Alors posons-nous cette question toute simple, encore une fois, est-ce que je suis une étoile pour guider les autres vers notre Seigneur Jésus-Christ? Les rois mages ont suivi l'étoile, et l'étoile les a menés à notre Seigneur Jésus-Christ, les a menés au baptême, les a menés à la foi catholique, les a menés au martyr aussi. Alors, suis-je un bon guide? Ou au contraire, suis-je un mercenaire qui s'enfuit dès que le loup arrive? Nous sommes entourés de loups, entourés des loups de l'Église catholique, de l'Église du Vatican II, entourés de tous les opposants de l'Église catholique autour de nous partout. Est-ce que, encore une fois, par ma façon de me comporter, je représente l'étoile qui conduit à la crèche de Bethléem? Une étoile qui ne conduit pas au vrai Dieu est une fausse étoile. Encore un point, j'essaie d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a dans cette liturgie très riche de la fête de l'Épiphanie. Il y a encore d'autres points sur lesquels on peut méditer un peu. Les rois mages, lorsqu'ils sont arrivés, ils ne sont pas présentés les mains vides. Hein. Ils ont amené des dons avec eux, des dons symboliques, mais des dons réels. Ils ont amené l'or, l'encens et la myrrhe. Ils ont amené l'or au roi, la myrrhe à l'homme et l'encens à Dieu. Pourquoi? Parce que l'or a toujours été le symbole de la puissance royale. L'encens, parce que l'encens est offert comme une manifestation de la prière. On fait brûler l'encens devant le Saint-Sacrement, justement pour manifester notre prière qui monte vers le ciel, qui monte vers Dieu, comme la fumée d'encens monte vers la voûte de l'Église. Et la myrrhe, parce que la myrrhe représente l'esprit de pénitence. La myrrhe est toujours un onguent, une espèce de parfum qui était utilisé pour dessécher les corps. Et donc, il était utilisé pour préserver les corps après la mort de la corruption. Ça permettait de les garder intacts pendant parfois de longues années au tombeau. Eh bien, je dois moi aussi apporter à notre Seigneur Jésus-Christ ces trois dons. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or parce que notre Seigneur Jésus-Christ doit vraiment être mon roi. L'encens parce que notre Seigneur Jésus-Christ doit vraiment être mon Dieu. Et la myrrhe parce que notre Seigneur Jésus-Christ doit vraiment être pour moi le Dieu crucifié qui meurt sur la croix pour me sauver le vendredi saint. Est-ce que j'apporte avec moi ces trois dons? Est-ce que je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ comme mon roi en lui donnant l'or? Est-ce que je reconnais que notre Seigneur Jésus-Christ est roi socialement, pas simplement intellectuellement, pas simplement dans le secret du tabernacle, mais dans la société elle-même. Roi par nature parce qu'il est notre créateur, roi par droit de conquête parce qu'il est notre rédempteur. Est-ce que je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ vraiment comme mon roi? Qui est-ce que je suis réellement? Suis du verbe suivre. Et qui vais-je suivre? Notre Seigneur Jésus-Christ ou le monde? Notre Seigneur Jésus-Christ et sa croix, avec tout ce que cela entraîne, avec la pauvreté, avec l'humilité, avec les mépris, ou est-ce que je vais suivre les richesses du monde, avec l'orgueil, avec encore une fois ses richesses et avec ses honneurs du monde moderne? Il n'est pas possible de suivre notre Seigneur Jésus-Christ et à la fois de suivre le démon. ou de suivre le monde. C'est pas possible, il y a un choix à faire. Est-ce que je reconnais aussi notre Seigneur Jésus-Christ comme mon unique vrai Dieu en lui donnant, en lui offrant l'encens? L'encens est le symbole de la prière. Est-ce que je prie tous les jours? Est-ce que je prie avec délicatesse, avec foi, avec charité? Est-ce que je garde ma prière du matin, ma prière du soir, le chapelet pour tous ceux qui savent méditer avec un minimum de temps de méditation pour justement s'épanouir sous le regard de la grâce du bon Dieu? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement mon Dieu, ou est-ce qu'il est un Dieu parmi d'autres dieux dans le panthéon du monde moderne? Et enfin, est-ce que j'offre à notre Seigneur Jésus-Christ la mire en faisant pénitence? La mire représente l'esprit de pénitence. C'est en contemplant notre Seigneur Jésus-Christ crucifié sur la croix, lorsque je serai levé de terre, a-t-il dit, j'élèverai tout à moi. C'est en le contemplant qu'on peut comprendre à quel point il nous faut apporter nous aussi cette mire à la crèche de Bethléem. Donc je dois apporter l'or, l'encens et la mire. L'or parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mon roi, l'encens parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mon Dieu, la mire parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mon Messie crucifié. Enfin, le dernier point qui me semble important, c'est cette petite phrase toute simple à la fin de l'évangile du jour de la fête de l'Épiphanie. Lorsqu'ils virent Hérode l'étoile, ils furent transportés de joie et entrant dans la maison de Marie, les rois mages trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère et se prosternant l'adorèrent, puis ouvrant leur trésor et lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ayant reçu en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Pourquoi? Parce qu'Hérode cherchait l'enfant pour le tuer. Eh bien, ce retour par un autre chemin est le symbole de la conversion. Les trois rois mages se sont convertis. Ils arrivent comme païens, repartent comme catholiques. Et bien moi, lorsque je me présente à la crèche de Bethléem, lorsque j'apporte mes dons, l'or, l'encens et la myrrhe, je dois revenir chez moi converti. Vous allez me dire, mais je suis déjà converti par le baptême. Il faut se reconvertir tous les jours, mes bien chers frères. Tous les jours, il faut nous remettre devant notre Seigneur Jésus-Christ avec ce désir de conversion. Conversion, c'est pas conversion d'une seule fois. Pourquoi? Parce que malheureusement j'ai péché depuis ma première conversion. Première conversion, c'est quoi? Conversion au sens propre du terme, c'est se tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ, convertere, se tourner vers. La première conversion, c'est le baptême. Et j'ai gardé cette grâce du baptême jusqu'à mon premier péché. Après, je l'ai perdu. Est-ce que je me suis dépêché de la récupérer cette grâce par une bonne confession, un acte de contrition parfaite? Donc, est-ce que je change de chemin à chaque fois que je communie? À chaque fois que je communie, surtout en ce jour de la fête de l'Épiphanie, il faut se poser cette question. Est-ce que je dois retourner chez moi par le même chemin que j'ai utilisé pour venir ici, ou est-ce qu'au contraire, le bon Dieu me demande de changer certaines choses pour être davantage au service de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie de tous les jours? Rappelez-vous tous ces textes d'Isaïe sur lesquels nous avons déjà médité pendant le temps de l'Avent. Il faut aplanir les vallées, il faut combler les vallées avec les montagnes pour faire un chemin bien bien préparé pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc est-ce que je retourne chez moi par un autre chemin? Que dois-je changer? Quelle est la résolution que je dois prendre? L'autre chemin, c'est symbole aussi de la résolution. Est-ce que je dois prendre une petite résolution pour cette semaine, pour être sûr que je reste en état de grâce cette semaine? Vous savez, mes bien chers frères, les choses ne se font pas automatiquement. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour tous les hommes. Il appelle tous les hommes à la gloire cachée de la crèche de Bethléem. Il y en a qui veulent pas venir. Plus ou moins tous les hommes recherchent notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a qui le recherchent pour l'adorer, il y en a qui recherchent pour le tuer. Les rois mages, les bergers recherchent notre Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer, mais les Hérodes, les pharisiens, les scribes, ils recherchaient notre Seigneur Jésus-Christ pour le tuer. Rappelez-vous la fête des saints innocents, c'est pas pour rien qu'on a la la fête des Saints Innocents juste quelques jours avant la fête de l'Épiphanie, fête des Saints Innocents, c'est le 28 décembre, rappelez-vous. Ce qu'a fait Hérode. Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, entra dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tous les environs, depuis l'âge de 2 ans au-dessous, selon le temps qu'il s'était enquis auprès des mages. Alors, si je ne fais pas attention, si je compte pas sur notre Seigneur Jésus-Christ, si je compte trop sur mes propres forces, je peux très bien, mes bien chers frères, faire la même chose qu'a fait Hérode, rechercher notre Seigneur Jésus-Christ pour l'étrangler. Vous lui coupez la tête, comme a voulu faire Hérode. Alors maintenant-nous dans l'humilité, mes bien chers frères, pour que je sache toujours chercher notre Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer et pas pour le tuer. Si je me présente à la Sainte Table en état de péché mortel, je fais exactement ce qu'Hérode a fait. Je me présente à la Sainte Table pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans une âme criminelle, et au lieu d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, je le tue spirituellement parlant, par un sacrilège épouvantable. Alors, mes bien chers frères, demandons ces grâces au bon Dieu. Demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Il est dit, je l'ai déjà expliqué dans un sermon précédent, que la Très Sainte Vierge Marie gardait toutes ces choses en son cœur, les méditant sans cesse. Quand elle a vu les rois mages arriver avec tout leur apanage de rois, de mages, d'astronome, elle a dû se poser des questions. Mais pourquoi c'est donc? Qu'est-ce que ça représente? Elle n'a pas tout compris encore parce que elle n'avait pas la science infuse. Mais elle s'inclinait devant la volonté du bon Dieu. Mon Dieu, que votre divine volonté soit faite. Faisons la même chose, mes bien chers frères. Allons nous présenter à la crèche de Bethléem. Nous aussi, au fond, notre Seigneur Jésus-Christ, nos dons. Et demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie, de pouvoir être reconnu par lui comme un de ses enfants. Seigneur, je suis un de ses enfants. Très Sainte Vierge Marie, je suis un de vos enfants. Aidez-moi à nettoyer ce qu'il faut encore nettoyer dans mon âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ, votre divin Fils, que vous savez très bien, dont vous savez tellement bien vous occuper, que votre divin Fils m'accepte dans la crèche auprès de lui pour que je puisse moi aussi revenir l'adorer. Et si je dois changer de route, changer de chemin en rentrant chez moi, indique-moi le nouveau chemin que je dois prendre avec les résolutions que je dois prendre au pied de la crèche. Demandons toutes ces grâces, mes bien chers frères, par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.